Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marc Golleridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu, et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Dernier temps de notre série consacrée à quelques dirigeants asiatiques, après avoir évoqué lundi le chinois Xi Jinping, mardi le japonais Shinzo Abe, hier l'indien Narendra Modi, intéressons-nous aujourd'hui au chef d'État nord-coréen Kim Jong-un.
La volonté de notre parti, de notre gouvernement et de moi-même de poursuivre la dénucléarisation demeure inchangée. Nous avons proclamé que nous ne construirons plus d'armes nucléaires et que nous ne les utiliserons ni ne les développerons pas. Nous avons d'ores et déjà pris diverses mesures pratiques en ce sens. Je suis toujours prêt à m'asseoir de nouveau avec le président américain autour d'une table, et ce, n'importe quand. Nous ferons d'ailleurs les efforts nécessaires pour trouver une issue que la communauté internationale accueillera favorablement. Néanmoins, si les États-Unis devaient à l'avenir jouer avec la patience de notre peuple, en maintenant par exemple les sanctions et la pression sans tenir compte de leurs paroles et des promesses faites devant le monde entier, nous n'aurons d'autre option que d'explorer une nouvelle voie afin de protéger notre souveraineté et de réaliser la paix dans la péninsule coréenne.
De l'allocution télévisée lors de la cérémonie des vœux de Kim Jong-un, c'était en janvier dernier. Kim Jong-un, fils de Kim Jong-il, petit-fils de Kim Il-sung, il est le troisième représentant de la lignée des Kim, officiellement lignée du Mont Paektu. Appelé à remplacer son défunt père, il avait fait son arrivée au pouvoir en décembre 2011 alors qu'il n'avait que 27 ans. Pourtant, en moins de 8 ans, il a déjà marqué l'histoire de son pays, éliminant les rivaux potentiels, relançant avec vigueur le programme nucléaire national et rencontrant ses homologues les plus prestigieux, Xi Jinping, Vladimir Poutine et même Donald Trump, avec qui désormais il a un dialogue direct. En effet, début 2018, après des mois de déclarations belliqueuses et plusieurs essais nucléaires et balistiques, il avait amorcé une détente spectaculaire avec ses ennemis historiques, rencontrant le président sud-coréen Moon Jae-in à Séoul, et puis quelques semaines plus tard, le président américain lors d'un sommet à Singapour. Élevé une partie de son enfance à l'étranger, en Suisse, il est conscient des réalités du monde extérieur, affiche une volonté de moderniser son pays, encourageant notamment l'essor des nouvelles technologies, mais tout en travaillant à faire entrer la Corée du Nord dans ce 21e siècle. Kim Jong-un ne cesse, depuis qu'il a succédé à son père, de resserrer le pouvoir entre ses mains. À la fois président du Parti du Travail, commandant suprême de l'armée populaire, président de la Commission des affaires de l'État et tout récent chef de l'État à la faveur d'une réforme constitutionnelle entérinée en juillet dernier, Kim Jong-un semble bien le seul maître à bord. Mais l'est-il réellement? Qui sont ses conseillers? Quelle influence sur le leader nord-coréen? Comment Kim Jong-un combine-t-il modernisation et renforcement du pouvoir? En quoi se distingue-t-il aussi de son père et aussi de son grand-père? Quels objectifs poursuit-il à travers ses pérégrinations diplomatiques? Pour évoquer tous ces sujets, nous avons invité Juliette Morillot. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Juliette Morillot, vous êtes une spécialiste des deux Corées. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. J'ai sous les yeux notamment Le Monde selon Kim Jong-un, que vous aviez fait paraître chez Lafon, que vous aviez coécrit avec Dorian Malovic, mais aussi La Corée du Nord en sans question, toujours avec Dorian Malovic chez Talendier. Un autre invité avec nous depuis Bruxelles, en duplex, c'est Pascal Daïès-Bourgeon. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien diplomate en poste à Séoul, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous avez également écrit des ouvrages sur la Corée, notamment la Dynastie Rouge, Corée du Nord 1945-2015, qui d'ailleurs a été traduit très récemment en coréen, je l'indique. Alors on va commencer peut-être avec l'actualité, parce qu'on n'avait pas tout à fait prévu, mais on a été un peu rattrapé par l'actualité. Juliette Morillot, cette semaine, hier, l'agence de presse nationale coréenne a publié une image de Kim Jong-un chevauchant fièrement un superbe cheval blanc sur les pentes enneigées du mont Paektu, une montagne sacrée pour les Nord-Coréens. Un petit texte accompagne l'image, laissant entendre peut-être une annonce très importante à venir. Je cite, « Il va y avoir une grande opération pour frapper à nouveau le monde d'étonnement et faire un pas en avant dans la révolution coréenne. » Voilà ce qu'écrit l'agence. Alors il faut se souvenir qu'en 2017 déjà, Kim Jong-un était venu précisément sur ces sommets, avant les grandes ouvertures diplomatiques qui ont abouti sur notamment ce sommet historique dont je parlais avec le président américain. Est-ce qu'on a une idée, Juliette Morillot, de ce qui pourrait être annoncé? Le cavalier fougueux du Mont Paektu veut nous dire quoi?
Je pense tout ça. Alors, je vais d'abord faire une tout petite rectificatif. Le mont Paektu est certes le mont sacré pour les Nord-Coréens, mais pour tous les Coréens. C'est-à-dire que c'est le lieu de naissance de la nation coréenne. Donc c'est très important également dans la signification de Kim Jong-un au mont Paektu. Ce qui est important, c'est également de dire qu'il est à cheval. Son père et son grand-père ont également été présentés à cheval. Il y a d'ailleurs un musée juste à côté de Pyongyang, à Mirim, un musée qui représente, qui est le musée du cheval et des dirigeants. Et on voit tous leurs pas, leur premier pas à cheval, les selles, etc. Donc c'est extrêmement important dans la symbolique. Sur ce mont Paektu, il était également accompagné, ce qui est encore un troisième point important, de sa sœur Kim Yo-jong. Donc je pense simplement que là, la Corée du Nord, Kim Jong-un, est en train de dire qu'il a toujours, c'est le cas de le dire, c'est un jeu de mots, les rênes en main, et qu'il dirige le pays et qu'il lui redonne sa grandeur avec force. C'est-à-dire que dans l'impasse dans laquelle nous sommes finalement avec Donald Trump, avec la Corée du Sud, il a repris les essais de missiles balistiques, il montre, il redonne également de l'espoir au peuple et il montre qu'il a une ligne forte. C'est pour booster la nation coréenne, je pense.
Pascal Daïès-Burgeon, Juliette Morillot parlait d'impasse et effectivement, s'agissant des discussions autour du nucléaire, on piétine les pourparlers menés en Suède qui se sont terminés récemment il y a quelques jours, n'ont rien donné. Par ailleurs, on sait bien que cette dénucléarisation de la péninsule demandée par Washington n'a jamais véritablement été une option pour Pyongyang, tant on sait que cette arme nucléaire est une condition de la survie du régime. Il faut se préparer à quoi ? Kim Jong-un va officialiser la fin des discussions sur le nucléaire. Est-ce que ça, c'est une option possible, Pascal Daïès-Burgeon ?
Je serais très surpris. Non, je pense que l'annonce, comme très souvent dans ce genre de contexte, accouchera d'une souris. Enfin, il n'y aura pas grand-chose qui suivra. Le tout, c'est précisément de se montrer sur le mont Paektu à cheval, comme l'empereur du Japon. Hein, c'est un peu ça. La dynastie Kim, au fond, a succédé à l'empereur du Japon à l'empire du Japon qui a annexé la Corée. Et tout le message de la Corée du Nord, c'est de dire nous sommes d'éternels résistants contre la présence coloniale japonaise. Nous faisons comme les Japonais, nous sommes meilleurs qu'eux. Et d'ailleurs, nous avons l'arme atomique qui a détruit le Japon. Donc tout ça est fondamental et on ne renoncera pas à l'arme atomique, comme vous l'avez dit. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait une annonce du type « nous renonçons à l'arme atomique » ou « nous renonçons aux négociations ». C'est simplement « on continue ». On continue comme avant et on gagne du temps surtout. Je crois que ce qui compte maintenant pour Pyongyang, c'est d'arriver jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump.
Juliette Morillot, un tout petit mot. J'ai vu que vous aviez l'air pas tout à fait...
Oui, le lien avec le Japon, là, dans le cas précis, c'est un petit peu rapide. C'est dit de façon un petit peu rapide. Enfin, il est vrai que la péninsule coréenne a été colonisée par le Japon, mais tous les gestes de la Corée du Nord ne s'adressent pas au Japon. Et cette image du dirigeant à cheval est ancrée de toutes les façons dans l'image des dirigeants à cheval, y compris Louis XIV, les rois, la royauté. Ça se voit dans le fameux musée. Donc le lien avec le Japon m'apparaît un tout petit peu ténu quand même dans ce cas précis.
Alors, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai qu'on parle très très souvent de cette question du nucléaire nord-coréen, nous on a voulu aujourd'hui et toute cette semaine se pencher vraiment sur les figures, les personnalités. Donc on va commencer, j'allais dire, avec le début. Alors le début, c'est toujours pour la Corée du Nord très compliqué d'avoir des informations, mais le début de Kim Jong-un, c'est-à-dire son enfance, est-ce qu'on a une idée avant qu'il parte en Suisse, parce que comme je le disais tout à l'heure, il va partir en Suisse ou il va suivre des études et c'est quelque chose qui va le marquer. Mais avant cette période-là, que sait-on de cet homme-là ? On va commencer avec vous, Pascal Daïès-Burgeon.
À vous dire, pas grand-chose. Dès sa date de naissance, d'ailleurs, qui n'est pas du tout sûre, sans doute les chiffres qui sont donnés ne sont pas tout à fait exacts.
Officiellement, 82.
Voilà, mais ça paraît extrêmement difficile compte tenu de la naissance de son frère aîné qui, si on calcule à ce moment-là la date que vous avez donnée, serait né 3 mois avant, etc. Enfin, tout ça est un peu triché et on ne sait pas exactement ce qu'il en est de son enfance, en fait. Dans la mesure où les sources que nous avons sont toutes extrêmement contradictoires, que ce sont des gens extrêmement protégés qui sont vivent dans des sortes de bunkers permanents et qu'on ne voit pas. Donc ce qu'on nous dit, ce qu'on nous répète, ce qu'on déforme rend les les choses très difficiles. Alors, les sources que nous avons, c'est notamment un cuisinier japonais qui a publié des mémoires extrêmement douteux, qui ont ensuite été traduite, mal traduite, enfin, donc on a quand même très peu de sources pour savoir exactement ce qu'il en est. Hein. Il y a des rumeurs aussi qui circulent sur sa filiation. Est-il vraiment le fils de sa mère? Est-il vraiment même le fils de son père? Donc entre des foules de rumeurs, il est quand même difficile de faire la part des choses et de savoir véritablement ce qui s'est passé. C'est certainement une enfance ultra protégée, totalement isolée et qui fait de Kim Jong-un quelqu'un qui n'a jamais vécu comme un coréen normal.
Juliette Morillo, après l'isolement dans les palais de Pyongyang, il y a donc ce passage du côté de la Suisse où il va suivre des études. Là, on a des éléments parce qu'il y a un certain nombre de témoignages d'anciens camarades, d'anciens professeurs qui l'ont vu à ce moment-là. Que sait-on de ce moment-là et dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que ça a marqué l'homme politique qu'il est devenu? Parce que peut-être que la question de la modernisation qu'on va évidemment évoquer aujourd'hui, elle trouve aussi ses racines dans cette expérience-là.
Alors, en effet, Kim Jong-un a passé une partie de la fin de son école primaire et du début des années de collège jusqu'en gros la quatrième, la troisième, en Suisse. Là-bas, il était sous la garde de sa tante, qui était la sœur de sa mère, qui est véritablement sa mère. Je pense qu'il faut arrêter cette espèce de mystère, cette espèce de nébuleuse autour de la famille Kim. D'ailleurs, sa tante a actuellement émigré aux États-Unis et elle, quand on lui demande quand est né Kim Jong-un, elle sait parfaitement qu'il est né à la même époque que son propre fils, donc en 1984. La date de 1982 est choisie par les hagiographes nord-coréens parce que ça se termine par deux, donc ça fait un pendant avec son père et son grand-père. Donc c'est important. À Pyongyang, toute sa petite enfance a été complètement isolée, c'est-à-dire il a été isolé notamment de l'autre branche, celle de son demi-frère dont on va peut-être parler, Kim Jong-nam, qui a été assassiné. Il a été complètement isolé. En revanche, les trois enfants, donc Kim Jong-un, Kim Jong-nam, le demi-frère, Kim Jong-chol, son aîné, Kim Jong-un, puis la petite sœur, Kim Yo-jong, ont tous les trois étudié en Suisse. Kim Jong-nam à Genève, isolé de ses demi-frères, et Kim Jong-un à Berne. Alors, on raconte que c'était un enfant assez secret, qui restait beaucoup à la maison, ne se mêlait pas trop aux autres, mais néanmoins, il avait, je crois, une console, il était passionné
de basketball, de Jordan,
il était...
collectionnait les baskets Nike.
Voilà, il paraît qu'il dormait avec une balle, un ballon de basket, et qui ne voulait pas s'en séparer. Bon, ceci dit, il a connu une vie, dirais-je, normale de gamin de cet âge-là, un peu isolé, c'est-à-dire avec des fêtes d'anniversaire. Et c'est important pour ce qui va suivre, parce qu'il sait ce qu'il y a eu. Il a appris à manipuler des consoles entre les mains, et l'informatique et toute la technologie, c'est vraiment au cœur des intérêts de Kim Jong-un.
Finalement, une vie assez classique pour un adolescent de son âge. Alors, justement, la question de la succession, Pascal Daès-Burgeon, parce que Kim Jong-un, c'est le deuxième enfant d'un second mariage, donc il n'est que troisième sur la liste de succession. Normalement, le pouvoir, il aurait dû aller au premier fils, Jong-nam, assassiné, vous l'aviez dit, Juliette Morillo, par empoisonnement à l'aéroport de Kuala Lumpur, par des agents nord-coréens. D'ailleurs, dans un premier temps, Kim Jong-il envisage de lui transmettre le pouvoir, et finalement, ça ne va pas se faire comme ça. Pascal Daès-Burgeon, pour quelle raison? Pourquoi Jong-nam ne va pas devenir le dirigeant de la Corée du Nord?
C'est assez difficile à dire aussi, hein, parce qu'on connaît comme assez mal ces gens. On leur prête des caractères de ce qu'on voit de l'extérieur. Il semble que Kim Jong-nam n'était pas véritablement assez sérieux, assez cohérent pour exercer le pouvoir, qu'il était assez critique vis-à-vis de la gestion de son père, qu'il était très favorable à un système d'ouverture économique à la chinoise, ce qui ne convenait pas non seulement à son père, mais au parti, et que progressivement son caractère l'a rendu inapte à exercer le pouvoir et il a préféré se retirer en définitive. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne connaît pas exactement les
les tenants et les aboutissants, les luttes de clans, parce que effectivement, il est le fils d'un premier lit, d'un premier mariage. Et ensuite, il y a des fils de deuxième, enfin pas première union, les fils d'une deuxième union. Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de lutte de clans, d'une branche qui l'emporte sur une autre? Voilà.
D'autant que la deuxième femme était plutôt la favorite. Et que ça, c'est très important.
Oui, oui, c'est important, mais la première était la préférée. Donc tout ça est assez confus et finalement c'est assez shakespearien, c'est-à-dire c'est des problèmes de famille au pouvoir et au-delà des caractères que nous connaissons mal et des luttes de clans, nous pouvons surtout constater que ça n'a pas fonctionné. Le deuxième non plus d'ailleurs.
Oui, mais on va y venir. Mais pour celui-ci, parce que il aurait pu tout simplement ne pas devenir le dirigeant de la Corée du Nord, mais il aurait pu aussi ne pas être assassiné par son demi-frère.
Oui, enfin, c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir assassiné. Non, ça c'est certain que jusqu'en présent, les autres concurrents, puisqu'en fait Kim Jong-il avait eu le même problème avec son cadet Kim Jong-il, qui à un moment aussi pouvait penser à recueillir l'héritage, et tous ces gens ont été exilés dans des ambassades lointaines. On pouvait imaginer que ce serait la même chose pour Kim Jong-nam. Lui a préféré se retirer. Non, ce qui semble la cause de l'assassinat, c'est quand même le fait qu'à court d'argent, il voulait rallier les États-Unis, voire peut-être la Corée du Sud, et livrer des tas de secrets sur le régime, ce qui n'était pas possible.
On dit même qu'il a donné des informations à la CIA et que peut-être c'est ceci qui expliquerait aussi cela, sans oublier évidemment les critiques assez directes sur la transmission héréditaire du pouvoir en Corée du Nord, sans compter sa sortie sur le fait que l'arrivée de Kim Jong-un au pouvoir était une blague à destination du monde extérieur. Voilà ce qu'il avait dit. Alors une fois Kim Jong-nam écarté, Juliette Morillo, 2017, il était assassiné. On a encore un autre prétendant, c'est Jong-chol, donc son frère, le premier issu de ce second mariage. Et normalement, dans le principe confucéen, le droit d'aînesse est important, donc c'est lui qui aurait dû succéder. Comment se fait-il que lui non plus ne va pas prendre le pouvoir?
Alors pour le coup, pour Kim Jong-chol, donc l'aîné, qui je crois est né lui en 1981, on dit que, notamment d'après Kenji Fujimoto, donc le cuisinier de Kim Jong-il, dont parlait Pascal Daïs-Burgeon il y a quelques minutes, on sait qu'il n'était pas aimé de son père et qu'il était un petit peu efféminé et qu'il n'avait pas un caractère très fort. Donc, Kim Jong-un plaisait par son caractère, il était indépendant, il était un peu rebelle, il était un petit peu belliqueux et il plaisait particulièrement à son père. Et je voudrais insister sur une petite chose à laquelle a fait allusion d'ailleurs Pascal tout à l'heure, c'est l'importance des femmes et des clans, c'est historique en Corée. C'est-à-dire Ko Yong-hee, qui est la mère de Kim Jong-un, est d'ailleurs la troisième femme de la vie de Kim Jong-un et non pas la seconde. Il a eu une première épouse qui lui avait été désignée de Kim Jong-il, qui lui avait été désignée par Kim Il-sung. Et Kim Jong-nam, pour revenir aussi sur un tout petit détail qui est très important, est tombé en disgrâce extrêmement brutalement parce qu'il a été arrêté alors qu'il allait avec sa famille à Disneyland au Japon en possession d'un passeport dominicain. Donc c'est un petit peu c'est pas tout à fait anecdotique parce que il est rentré en Corée du Nord et puis immédiatement après il s'est exilé à Macao. Donc c'est quand même important et je pense qu'il y avait ce conflit entre Ko Yong-hee qui voulait évincer ses anciennes rivales féminines et voulait placer son fils sur le devant de la scène.
Alors, une fois que Kim Jong-il a arrêté son choix, il faut faire de Kim Jong-un l'héritier officiel. Donc, il est nommé à la sécurité de l'État, il est nommé à la direction du parti, il est promu général de l'armée, il prend le titre de camarade brillant. Il va falloir faire vite, puisque la succession s'achève et le grand leader disparaît.
이 세상 끝까지라도 함께 갈 인민의 마음도 불같이 달리는 거리여 백두산 인들의 숭고한 환생이 빚긴 통일이라는 그 이름과 함께 우리 영원히 어머니 수령님과 경의하는 장군님을 모시고 살리니
Voilà un extrait de cette procession, de ces obsèques de Kim Jong-il avec des gens qui semblent sincèrement éplorés. Quand on regarde un peu ce qu'il y a dans ce cortège tout autour de ce corbillard funéraire de Kim Jong-il, on a des gens évidemment extrêmement importants, on a évidemment Kim Jong-un, mais on a d'autres personnalités qu'il va falloir évoquer, Juliette Morillo, on a Chang Song-taek, qui est l'oncle maternel, on a Kim Yong-nam, le président de l'Assemblée du Peuple, on a Choi Yong-rim, le Premier ministre, on a Ri Yong-ho, le vice-maréchal et bras droit de Kim Jong-il. Alors on pourrait penser, Juliette Morillo, que la transmission du pouvoir va se faire de façon tout à fait naturelle, au nom du fait qu'évidemment on est dans une dictature héréditaire, donc les choses sont assez simples. C'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Il va falloir qu'il fasse sa place, Kim Jong-un.
Oui, alors Kim Jong-un va devoir faire sa place, et parmi les hommes que vous avez cités, il y en a un qui est très important, je pense que tout le monde connaît, c'est Chang Song-taek, qui est l'oncle qui a été exécuté pour trahison par Kim Jong-un. Lui, pour le coup, il avait de véritables rapports avec la Chine, avait détourné de l'argent, mais ce qui est important et ce qui est très très curieux, c'est que Chang Song-taek est l'oncle par alliance de Kim Jong-un, c'est-à-dire qu'il est marié à Kim Kyung-hee, qui est la sœur de Kim Jong-il.
Donc et c'était le beau-frère de Kim Jong-il.
C'était le beau-frère de Kim Jong-il. Et les deux, donc, ont été chargés de coacher Kim Jong-un juste pendant cette période durant laquelle Kim Jong-il était malade. Donc c'est eux, Kim Kyung-hee, donc la tante, lui a notamment donné des cours d'économie. Donc c'était véritablement ses coachs, c'était ses mentors, mais ils ont pris trop d'importance.
Trop d'importance, ou ils voulaient carrément prendre le pouvoir?
Alors, je ne sais pas s'ils voulaient prendre le pouvoir, je ne le crois pas. Je pense en revanche qu'ils avaient des liens avec la Chine, qu'ils avaient détourné de l'argent et que c'est considéré comme une trahison. Et Kim Jong-un a donc, dans un premier temps, commencé par éliminer toutes les personnes qui pouvaient lui nuire.
Pascal Daïs-Burgeon, d'accord avec cette thèse, les liens peut-être avec la Chine? Ce serait ça qui expliquerait.
Ou en tout cas, c'est ce qui a été officiellement signalé. Et il y a ça, et le fait aussi que Monsieur Chang Song-taek voulait une certaine ouverture du régime. Il avait prôné notamment la fermeture de la plupart des camps de concentration qui existent quand même dans ce pays, prôné pour une sorte de libéralisation. Et ça, c'était inacceptable pour le dirigeant qui, somme toute, veut continuer sur la lignée de son père et de son grand-père.
Alors
et
même puis, que paradoxalement, c'est ce qu'il va faire, Pascal Daïs-Burgeon.
Non, il n'a pas libéré les camps.
Non, bien sûr, mais de l'ouverture, il va y en avoir. Quand en 2013, il met en place sa politique du Byung-jin, la double poussée, il y a ce désir d'ouverture. C'est deux choses, cette double poussée. C'est évidemment la question de la relance du programme nucléaire, mais c'est aussi le développement économique. Donc il y a aussi cette ouverture-là sur le plan économique. Alors certes, évidemment, on n'est pas dans une libéralisation hyper poussée, mais que tout de même...
Oui, mais c'est pas la chinoise, si vous voulez. Il s'agit pas de transformer la Corée du Nord dans une sorte de clone de la Chine, parce que ça serait très dangereux pour le dirigeant au pouvoir et surtout pour l'armée, en fait. Donc c'est quand même une ouverture très très particulière qui consiste simplement à laisser une bourgeoisie se développer à Pyongyang, mais n'est pas du capitalisme rouge à la chinoise. Et donc la corruption généralisée et l'ouverture capitaliste que prenait son oncle était inacceptable. Et puis en outre, effectivement, il y avait un danger que en fait son oncle et sa tante préféraient quand même Kim Jong-nam, et ils ont tout fait pour que Kim Jong-nam revienne. Ça n'a pas fonctionné. On peut même se demander si l'assassinat de Kim Jong-nam n'est pas une réponse, finalement, une dernière revanche. Enfin, il était le préféré non seulement du père, mais en plus de l'oncle et de la tante. Kim Jong-un a eu beaucoup de mal à s'imposer, et donc il fallait se venger et l'éliminer pour bien montrer maintenant qu'il est au pouvoir.
Juliette Morillo, peut-être sur la vision, un mot sur la vision du développement selon Kim Jong-un. Pascal Daïs-Burgeon nous disait c'est pas un développement à la chinoise. C'est quoi le développement économique à la nord-coréenne, sachant qu'il existe, hein, vous allez très régulièrement en Corée du Sud, mais aussi en Corée du Nord, vous avez pu vous-même le constater, ce développement, il est là, il existe bel et bien. C'est quoi ce modèle de développement pensé par Kim Jong-un?
Très rapidement, il faut reprendre les origines de ce développement, en fait, qui remonte à la grande famine des années 1990, que les Nord-Coréens appellent la marche ardue, c'est-à-dire que, pour faire très rapide, vous avez la chute du bloc de l'Est au milieu des années 1990, qui va couper la Corée du Nord de toute son énergie. En même temps, vous allez avoir toute une série de catastrophes climatiques, des inondations, des sécheresses qui vont appauvrir le pays. Les usines sont à l'arrêt. Vous avez cette famine dont tout le monde a entendu parler. Et qui est-ce qui va prendre les choses en main? Ça va être les femmes, parce que les hommes, les Nord-Coréens, vont continuer à les pointer à l'usine, mais ils sont au chômage technique. Et on arrive au bout du système de distribution. Donc elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre le destin de leur pays en main et vont commencer à aller chercher de la nourriture, de l'huile, des médicaments, des doudounes en Chine et commencer comme ça une sorte de commerce frontalier que dans un premier temps, les autorités vont autoriser, interdire comme une sorte de soupape de sécurité pour pas que le pays implose avec cette famine. Et puis finalement, ils vont l'encourager. C'est ce qu'on appelle la Changmadang Generation, la génération Changmadang, une génération de marché. Et aujourd'hui, ça s'est développé, ces femmes... Il y a une majorité de femmes sont des entrepreneurs. Elles vont apprendre à changer de l'argent. Elles vont fonder des banques. Elles vont changer littéralement le visage du pays et former cette bourgeoisie de Pyongyang dont parle Pascal Daïès-Burgeon. Et elles ont grosso modo l'âge de Kim Jong-un. Mais elles restent pour l'instant, je dirais, encore loyales à la nation.
Et quel risque, en quelques mots, quel risque ça représente pour le régime? D'autres ont essayé. Ils ont eu des problèmes, si je puis dire, la perestroïka de Gorbatchev, on sait à quoi ça a conduit. Est-ce que l'ouverture économique, je mets des guillemets, de Kim Jong-un représente une quelconque menace pour son régime?
Alors, ce qui représente une menace, bien évidemment, c'est l'ouverture sur le monde extérieur. Kim Jong-un en est parfaitement conscient. Il sait très bien que toute cette jeune génération qui d'ailleurs est allée à l'étranger, ainsi que les contacts, notamment avec certains réfugiés qui peuvent téléphoner en Corée du Nord, on sait maintenant ce qui se passe à l'étranger. Donc, tout le défi de Kim Jong-un va être de garder, finalement, de développer économiquement le pays pour éviter une grogne. C'est pour ça qu'il veut la levée des sanctions, tout en gardant, bien évidemment, le pouvoir.
Pascal Daïès-Burgeon, regardons ce qu'il y a autour de Kim Jong-un, les personnalités importantes, son entourage. Il y a une personne visiblement qui a l'air extrêmement importante, Juliette Morillot tout à l'heure l'a mentionné, c'est la sœur Kim Yong-jong. On lui accorde un rôle politique très important, elle était d'ailleurs présente lors des rencontres intercoréennes des derniers mois. Quel est son rôle, Pascal Daïès-Burgeon?
Moi, j'ai l'impression que c'est quand même surtout un rôle de façade, c'est-à-dire qu'il s'agit de bien ancrer l'idée que le pays a une dynastie et il faut montrer que tous les membres de cette fratrie sont essentiels. Donc, effectivement, elle a un rôle diplomatique, elle l'a accompagnée dans divers sommets. On a d'ailleurs aussi indiqué que son rôle avait un peu décliné depuis l'échec de la rencontre avec Donald Trump à Hanoï. Mais dans l'ombre, il y a quand même toute une série de dirigeants beaucoup plus âgés et beaucoup plus puissant, et je crois qu'elle est un peu là pour donner le champ.
Vous pensez à qui?
Il y a toute
Cho
une série de...
Son Yu,
oui,
une autre femme qui a été récemment nommée vice-premier ministre des Affaires étrangères.
Oui, donc ça, vous savez, le gouvernement nord-coréen, il y a à peu près 90 ministres, et puis une centaine de sous-ministres, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Non, je pense qu'il y a beaucoup de vieux dirigeants politiques.
Elle était quand même présente lors des pourparlers avec l'administration américaine, c'est elle qui a ouvert les discussions, c'est elle qui l'a clos. Donc, elle n'a pas l'air d'être sans pouvoir, visiblement. Elle a au minimum l'oreille de Kim Jong-un et elle est importante, visiblement, dans les pourparlers.
Oui, je ne dis pas sans pouvoir, mais il y a une différence dans ce pays entre ce qu'on nous montre, les ministres, si possible, jeunes, femmes, novateurs, et puis la réalité derrière, c'est-à-dire un clan qu'on ne voit jamais de vieux généraux et de vieux politiciens très puissants, et sans lequel Kim Jong-un ne serait rien d'une certaine manière et qui tiennent la réalité du pouvoir. Un peu dans le système impérial japonais, c'était la même chose. Donc je crois qu'il y a vraiment une façade et que la sœur est un peu aussi une façade. Je ne dis pas qu'ils sont sans pouvoir et qu'on ne les écoute pas, mais ce n'est qu'une partie du pouvoir en Corée du Nord et que l'essentiel du pouvoir
est dans les mains.
Est caché qu'on ne voit pas ces dirigeants qui n'ont d'ailleurs pas envie de se montrer et qui n'ont pas de portefeuille particulier.
Et pas nécessairement dans les mains de Kim Jong-un.
Il a la totalité du pouvoir en titre, mais à mon sens, ça ne fonctionne pas tout seul. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mener sa politique agressive ou au contraire les changements qu'il impose maintenant sans avoir l'accord de toute une camarilla politico-militaire qui le soutient. Même chose pour l'ouverture économique. Il peut ouvrir, peut autoriser des entreprises, une certaine forme de développement, mais il est essentiel pour le parti, pour l'armée, de garder le pouvoir. Et on ne peut surtout pas créer de nouvelle concurrence que serait une bourgeoisie qui aurait un pouvoir politique.
Juliette Morillo, sur cet entourage que j'ai évoqué, Kim Yong-jong, la sœur conseillère, Cho Son-yul, qui est aux affaires étrangères, qui a un poste important aux affaires étrangères, est-ce que c'est simplement des hommes et des femmes de paille, tout cela, et au fond le pouvoir est autre part, Juliette Morillo?
Alors je pense que le pouvoir est entre les mains de Kim Jong-un, et que Kim Jong-un n'a confiance que dans les personnes de sa famille proche. De même que Kim Jong-il, son père, avait énormément confiance en sa propre sœur, Kim Kyung-hee. Le schéma se reproduit avec Kim Jong-un et Kim Yo-jong, donc sa petite sœur, a, je pense, énormément de pouvoir. Elle n'a pas été éliminée du pouvoir au lendemain du sommet de Hanoï et au contraire a été promue à d'autres fonctions. Elle n'est plus aux mêmes fonctions, mais elle a changé de fonction. Elle est là en filigrane et d'ailleurs c'était important qu'elle soit sur les fameuses photos. Quant à Choi Soon-hee, qui est la négociatrice, c'est une femme clé, qui a été interprète, notamment, je crois, pour les négociations.
Elle parle très bien anglais.
Elle parle très bien anglais. C'est elle qui était là, déjà là pour les négociations avec Clinton il y a très très longtemps. Donc, tout ça, il a un entourage qu'il a modifié.
Petite parenthèse sur cette femme, c'est la belle-fille d'un ancien Premier ministre.
Oui, et justement, je voulais y venir. C'est-à-dire que si vous regardez les photos, notamment représentant le gouvernement, quand vous regardez les photos d'il y a quelques années, vous n'avez que des hommes et que des vieux. Aujourd'hui, vous avez des jeunes, parce que la première chose que Kim Jong-un a faite a été de s'entourer de ce qu'on appelle des princes rouges, qui sont finalement les enfants, les cousins, les petits-fils de tous ces ministres, ex-ministres qui étaient déjà là pour son père, voire son grand-père. Tout à l'heure, vous citiez Kim Yong-nam, qui était près du cercueil de Kim Jong-il. C'est un monsieur avec des sourcils de Groucho Marx qui était le chef de l'État nord-coréen. Et vous l'avez dit tout à l'heure, depuis juillet, Kim Jong-un a repris ses fonctions. Lui, Kim Yong-nam, est là depuis Kim Il-sung. C'était un des derniers vieux de la vieille, un des vieux diplomates. Ils sont au contraire entourés d'hommes jeunes. Il a totalement renouvelé toutes les personnes autour de lui avec une nouvelle génération. Et j'insiste beaucoup, je pense que sa sœur et que son entourage proche sont les seuls en qui il a réellement confiance.
Pascal Daes-Burgeon, Juliette Morillo parlait à l'instant de Kim Il-sung. Il y a peut-être un parallèle à faire, en tout cas étudier jusqu'où est-ce qu'on peut justement établir ce parallèle entre Kim Jong-un et son grand-père Kim Il-sung, qui a été au pouvoir, rappelons-le, de 1948 et 1994. Alors d'abord, il faut dire que la ressemblance physique est assez frappante. On dit même, alors évidemment, c'est toujours le règne, le royaume des rumeurs, mais qu'il aurait fait des opérations chirurgicales pour pousser encore cette ressemblance. Dans quelle mesure est-ce qu'effectivement, Pascal Daes-Burgeon, eh bien, Kim Jong-un a cultivé ou non cette ressemblance avec cette figure tutélaire de la nation nord-coréenne? Et jusqu'où la comparaison vous semble tenir?
Oui, effectivement, on dit que il a subi des opérations. On prétend même aussi que c'est son véritable père. Mais bon, enfin, tout ça, une fois de plus, hein, ce sont des rumeurs. Cultive la filiation, c'est-à-dire que la légitimité de l'actuel dirigeant, c'est d'être le fils de son père et le petit-fils de son grand-père. Donc il faut être dans la continuité permanente. Et on est dans un régime très surprenant où il y a maintenant deux grands ancêtres. Il y a un mausolée dans lequel il y a son père et son grand-père, des statues jumelles partout. Donc c'est fondamental d'être le successeur de l'un comme de l'autre. Donc les références à Kim Il-sung et à Kim Jong-il sont constantes parce que c'est la logique du régime. Et moi, je suis désolé, mais les sources que j'ai, qui sont notamment des réfugiés de très haut niveau au sud, contredisent cette idée que, effectivement, il y a tout un aspect de jeunesse, de femmes qu'on met en avant, etc. Et dans la réalité, visiblement, la deuxième génération est toujours au pouvoir et la troisième génération piaffe d'impatience. Et c'est peut-être un peu ça tout l'enjeu du régime actuel. C'est-à-dire que, en gros, on a un dirigeant jeune qui fait jeune et en fait qui mène la politique totalement de son grand-père et de son père pour complaire aux générations toujours en place, contrairement à l'apparence que ça donne. Je vois bien que quand on voit toutes les images qu'on nous montre, on a l'impression d'un changement, d'un dirigeant souriant qui s'adresse aux jeunes, qui promeut effectivement des jeunes et des femmes. La réalité que nous décrivent ceux qui ont fui le régime est toute différente en fait. Et on a vraiment encore une gérontocratie au pouvoir d'après eux. Hein. Je pense quand même que ce sont des sources intéressantes et dignes de foi.
Je n'en doute pas un seul instant. Juliette Morillot, est-ce que vous voulez réagir sur ce point-là ou est-ce
qu'on avance? Allez, un petit mot quand même.
Vous
n'êtes
pas
d'accord
sur ce point, mais chacun va pouvoir s'exprimer. Je vous en prie.
Je voulais ajouter quelque chose sur la ressemblance entre Kim Jong-un et son grand-père Kim Il-sung. C'est-à-dire que pour la nation nord-coréenne, Kim Jong-il, donc le père de Kim Jong-un, est malheureusement associé à des années extrêmement dures, les années de grande famine. C'est les années de famine. Donc, la venue de Kim Jong-un a été plutôt appréciée. Kim Jong-il, vous vous en souvenez, était plutôt petit, plutôt chétif, avec des cheveux bouffants. Il était avec sa saharienne. Il n'était pas très jovial, pas très convivial. En revanche, Kim Jong-un cultive beaucoup, beaucoup son allure très joviale, très conviviale. Il cultive sa ressemblance avec son grand-père par les lunettes, par les costumes, par les postures, par sa façon de parler. Mais ce qui est important, c'est de savoir, au-delà de ces rumeurs de chirurgie esthétique qui ne sont que des rumeurs, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il fait ça. Pour la simple raison que l'époque de Kim Il-sung est considérée véritablement pour les Nord-Coréens comme un âge d'or, c'est-à-dire qu'en 1994, quand il est mort, tout s'est effondré. Et il fut un temps, au lendemain de la guerre, où en Corée du Nord, il ne faut pas l'oublier, on vivait beaucoup mieux qu'en Corée du Sud. Et puis il y a eu un moment où, dans les premiers temps, j'insiste bien, dans les premiers temps, le système de distribution publique et le système fonctionnaient, on vivait bien. Donc pour toute une génération de Nord-Coréens, quand on parle de Kim Il-sung, c'est « Ah, le bon vieux temps, c'est l'âge d'or, du temps où on était fort, du temps où il y avait l'URSS, du temps où tout allait bien. » Et c'est ce message subliminal que Kim Jong-un, par son comportement, par des attitudes qu'il répète, veut transmettre à son peuple.
Dans un court instant, on va accueillir Théo Clément, avec qui on va évoquer les relations entre Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping. Mais d'abord, il y a une autre relation qu'il faut évoquer, c'est celle de Kim Jong-un avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Il faut savoir qu'il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il y a d'abord eu la poignée de main sur la DMZ, la ligne de démarcation, symboliquement franchi par les deux chefs d'État à tour de rôle, ce qui n'avait pas été fait depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Il y a l'épisode de l'arbre de la paix planté par les deux hommes. Il y a l'accolade lors de la signature de cet accord au terme du sommet sur la dénucléarisation de la péninsule. La réalité, Pascal Daïès-Burgeon, de ce rapprochement entre les deux frères ennemis, jusqu'où est-ce qu'elle pourrait aller? Et au fond, pourquoi est-ce qu'elle est décidée par Kim Jong-un? Quel est son intérêt à le faire, Pascal Daïès-Burgeon?
Je ne sais pas si elle est décidée par Kim Jong-un, elle est décidée des deux côtés. C'est une sorte de tension qui porte les deux Corées à se rapprocher l'une de l'autre. Il me semble que l'intérêt existe dans les deux camps. Il existe bien entendu pour le Nord parce que il faut quand même trouver un moyen de contourner les sanctions et de maintenir à flot la légère ouverture économique du régime. Mais elle est très importante pour le Sud aussi, et notamment pour le président Moon qui doit faire ses preuves et faire au fond l'inverse des mandats conservateurs qui ont amené la Corée du Sud dans l'impasse. Donc les deux ont intérêt à se rapprocher. En revanche, que ça ne fonctionne pas, c'est vraiment à cause de la pression extérieure et notamment des sanctions. C'est-à-dire que le Sud ne peut rien envisager de coopération économique avec le Nord sans risquer des sanctions américaines. Et du coup, le Nord est un peu déçu de voir que rien ne se passe. Il espérait qu'on puisse réouvrir la zone économique spéciale à la frontière. Ce n'est pas le cas. Il espérait des aides du Sud. Ce n'est pas le cas. Que les grandes compagnies du Sud investissent. Ce n'est pas possible. Donc, ils sont un peu déçus. Mais il n'empêche que des deux peuples, il y a un désir de rapprochement. Ça ne veut pas dire de réunification, je crois que c'est autre chose, hein. Mais de rapprochement, parce qu'il y a quand même une âme commune, une langue commune, ces deux peuples qui s'apprécient quand même, hein. Quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux en Corée du Sud de ce qu'on dit du Nord, c'est très différent de ce que nous imaginons. Il n'y a pas d'hostilité, il n'y a pas de haine. Il y a même parfois des commentaires laudatifs qui apprécient. J'ai même trouvé une fois sur un réseau social quelqu'un qui expliquait que la bombe nord-coréenne, c'était la bombe coréenne, notre bombe. Enfin, c'est assez surprenant. Ouais, donc il y a vraiment un élan qui pousse ces deux peuples, ces deux pays, qui sont le même peuple, l'un vers l'autre.
Ouais. Juliette Morillot, vous êtes d'accord, finalement, un rapprochement assez naturel et...
C'est un rapprochement, en effet, comme l'a dit Pascal Daïs-Burgeon. Non, je pense que c'est...
Politique.
Non, il n'y a pas de calcul politique, bien évidemment. Il y en a dans le cadre de la dénucléarisation. Mais ce que reproche la Corée du Nord à la Corée du Sud, c'est surtout de ne rien pouvoir faire sans être le toutou de Washington.
On est avec vous, Juliette Morillot, et vous, Pascal Daïs-Burgeon, sur cette semaine consacrée aux nouveaux hommes forts en Asie. On parle aujourd'hui de Kim Jong-un.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va parler maintenant des relations entre Kim Jong-un et Xi Jinping. En juin dernier, le président chinois a été accueilli à Pyongyang, une première pour un président chinois depuis la visite de Hu Jintao en 2005. Kim Jong-un avait réservé à son hôte, évidemment, un de ses spectacles chorégraphiés au millimètre dont son régime a le secret. Un spectacle à la gloire de Xi Jinping, bien sûr, avec un immense portrait porté par des enfants dans les tribunes. Pourtant, ce pas de deux avait mal commencé entre les deux hommes. En effet, arrivé au pouvoir un peu plus d'un an après Kim Jong-un, Xi Jinping n'avait pas apprécié que le jeune leader relance son programme nucléaire. Mais depuis, les choses ont changé avec un Donald Trump qui a brisé la glace et qui a même accepté de rencontrer son homologue nord-coréen à plusieurs reprises, faisant du jeune dictateur un interlocuteur incontournable. Alors, quelles sont les relations entre l'héritier de la dynastie Kim et le président chinois? Et jusqu'où va le soutien de Pékin? Bonjour Théo Clément.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé au King's College de Londres, docteur de l'ENS Lyon et de l'Université de Vienne, et puis enseignant aussi à l'Université de Pyongyang en Corée du Nord. Ça faisait presque 15 ans qu'un président chinois n'était pas venu en visite officielle en Corée du Nord. Comment est-ce que vous interprétez ce déplacement du président Xi Jinping? Quels étaient les messages envoyés et à qui était-il envoyé, Théo Clément?
Alors effectivement, comme vous l'avez expliqué, les relations personnelles et globalement les relations de la Chine et de la Corée du Nord étaient parties du mauvais pied après l'arrivée au pouvoir du Xi Jinping et de Kim Jong-un, donc en 2011-2012. Par contre, les capacités diplomatiques et stratégiques de Kim Jong-un ont un peu forcé la main aux Chinois, dans la mesure où certes, la Chine était effectivement pas très à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le programme, la reprise des essais nucléaires et balistiques nord-coréen. Par contre, Kim Jong-un, en tendant la main à la Corée du Sud et surtout aux États-Unis, a suffisamment fait peur à Pékin, la crainte d'un retournement d'alliance, pour que la Chine change d'attitude et se décide à resserrer les liens de manière un peu artificielle, mais grâce à la force politique de symboles communs, d'une idéologie qui est plus ou moins commune encore, même si on pourra en discuter. Et de fait, Pékin s'est retrouvé bien obligé de resserrer les liens très rapidement avec la Corée du Nord, de peur de se faire damer les pions à la fois par la Corée du Sud et aussi par les États-Unis.
Théo Clément, je rebondis sur une expression que vous venez d'utiliser, retournement d'alliance. À Pékin, on pense sincèrement qu'un retournement d'alliance est possible?
Alors, contrairement à ce que les Nord-Coréens et la Chine essaient de faire croire, les relations entre Chinois et Nord-Coréens sont très difficiles. Kim Jong-un a eu des mots extrêmement durs à l'égard de la Chine. Alors, à mots voilés, mais lors du dernier congrès du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-un, donc, qui a fait le rapport final, a notamment expliqué que les vents pourris de la réforme et de l'ouverture soufflaient dans notre voisinage, donc allusion directe à la Chine. ce qui a fait très peur, et les négociateurs américains qui font des discussions dites track two, donc qui mêlent à la fois universitaires, chercheurs et diplomates avec la Corée du Nord, ont eu plusieurs fois des allusions très marquées des négociateurs nord-coréens en expliquant que les États-Unis avaient peut-être un avantage très marqué à se rapprocher de la Corée du Nord de manière à faire pièce à la Chine. Mmh. Alors évidemment, pour l'ordre, c'est très difficilement envisageable étant donné la teneur des relations entre la Chine et la Corée du Nord maintenant.
Attendez, Théo Clément, pardon Théo Clément, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous entendre. Il a fait référence, disiez-vous, la formule, c'était les vents pourris de la réforme. Est-ce qu'il faut comprendre qu'en réalité, il y aurait, je mets au conditionnel, du côté de la Chine, un désir d'ouverture du régime nord-coréen et que c'est quelque chose qui déplairait à Kim Jong-un? Est-ce que je peux l'interpréter comme ça? C'est juste ou pas?
Alors, il y a réforme et réforme. La réforme chinoise, clairement, si la Corée du Nord avait été séduite par la mise en œuvre d'une réforme dite à la chinoise, c'est-à-dire d'une ouverture complète et d'une transition d'un système centralisé à un système capitaliste plus ou moins classique avec des monopoles d'État, etc., enfin le système chinois, je pense que ça aurait été fait depuis longtemps. C'était notamment, c'est ce qui a été évoqué par vos invités, un des points de discorde dans l'affaire de Pompec. Par contre, et les Chinois ont de toute façon très intérêt à ce que la réforme se diffuse en Corée du Nord, de manière à stabiliser le pays, à développer l'économie sans qu'elle dépende trop de la Chine, pour pas que la Chine ait apporté la Corée du Nord à bout de bras. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réforme économique en Corée du Nord. Il y a une réforme économique en Corée du Nord, mais c'est pas une réforme à la chinoise.
Voilà. Et les Chinois poussent pour qu'il y ait davantage d'ouverture et davantage de réformes, et peut-être que le régime nord-coréen, lui, freine des cas de fer. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter.
Alors les Nord-Coréens tentent d'utiliser, disons, les meilleurs aspects de la réforme, notamment qui peut développer le pays, mais sans tomber dans un schéma de dépendance abusive vis-à-vis de la Chine ou des autres pays. Je pense que la colonne vertébrale idéologique de la RPDC, ça reste quand même la recherche d'indépendance, et notamment la recherche d'indépendance vis-à-vis des tutelles des institutions coloniales. Dont la Chine.
Alors justement, cette collaboration entre la Chine et la Corée du Nord, les liens commerciaux entre les deux pays, en réalité, ont connu des hauts et des bas. Il y a eu certains moments où effectivement le soutien du grand frère chinois à l'économie nord-coréenne était très fort, et puis des moments où il était beaucoup moins fort, beaucoup plus modeste. Aujourd'hui, on en est où? La réalité des échanges commerciaux entre les deux pays aujourd'hui, c'est quoi? Et le niveau aussi de dépendance de l'économie nord-coréenne vis-à-vis de Pékin?
Alors, il y a eu des moments historiques où la coopération était très étroite, mais ça, c'est essentiellement du temps de la guerre froide, jusqu'à grosso modo la réforme chinoise. Depuis, et notamment, alors, une fois qu'on fait abstraction de l'épisode de famine en Corée du Nord, où là, l'économie a été plus ou moins en roue libre, on va dire, la Chine a mis en place des stratégies d'engagement économique à l'égard de la Corée du Nord, qui était certes guidée par des accords au niveau gouvernemental, mais qui était essentiellement opérée par les entreprises et par le marché. Il faut savoir qu'à partir de 2002, à partir des réformes du 1er juillet 2002 en Corée du Nord, les opérateurs économiques qui vont investir en Corée du Nord, qui vont faire des échanges notamment en Corée du Nord, c'est des petits opérateurs privés. Donc, c'est-à-dire c'est des entreprises du secteur minier qui vont récupérer des ressources et venir les transformer en Chine. Les entretiens que j'ai pu avoir avec des chercheurs nord-coréens ou des businessmen nord-coréens me laissent largement penser que la Corée du Nord est extrêmement frustrée vis-à-vis cette stratégie d'engagement qui en fait faisait la part belle aux entreprises chinoises beaucoup plus qu'à la Corée du Nord, et qui offrait un mode de développement à la Corée du Nord qui était essentiellement d'ordre, alors le mot est un peu dur, mais d'ordre colonial. La Corée du Nord qui dépend entièrement de la Chine pour la transformation des matières premières.
Et est-ce que là, à l'occasion de la visite de Xi Jinping, Théo Clément, est-ce qu'il y a eu des nouveaux accords, des nouveaux principes de coopération entre Pékin et Pyongyang?
Alors, on a entendu plusieurs choses. De fait, on a vu des manifestations vraiment physiques d'un rapprochement. Il y a certains ponts, notamment des infrastructures transfrontalières, qui visait à l'intégration économique entre la Chine et la Corée du Nord, qui avait été suspendue depuis quelques années, dont on voit que les travaux sont en train d'être poursuivis juste après la visite de Xi Jinping. Donc clairement, il y a une volonté de la part des Chinois de lever les quelques blocages qui peuvent exister pour au moins préparer soit un après-sanction, soit vraiment aller dans une phase où on va plus ouvertement violer les sanctions. Après, on voit beaucoup des appels à investissement rédigé par des Nord-Coréens qui circulent sur le web chinois, on en voit de plus en plus. Des ponts qui s'ouvrent à la frontière, il y a une grosse maison de douane qui est en train d'être d'être construite à la frontière sino-nord-coréenne, donc près de la commune spéciale de Rajin-Zongbong. Et tout ça, c'est des signes qui laissent penser que potentiellement les choses pourraient avancer dans un futur proche. Après, ça, c'est pas la première fois que ce genre d'ambition un peu importante se révèle ne pas avoir finalement lieu.
Je voudrais faire réagir nos deux invités, Pascal Daès-Burgeon et puis ensuite Juliette Morillo. Sachez qu'on arrive presque au terme de cette émission, donc ça sera une réaction en guise de conclusion. Pascal Daès-Burgeon en duplex de Bruxelles.
Une réaction concernant la relation
les relations entre Kim et Chine. Oui, évidemment, parce que on sait bien combien le soutien de la Chine est indispensable à ce régime.
Bah, je crois que le régime en permanence a joué une capitale contre l'autre, c'est-à-dire à l'époque du communisme, c'était Pékin contre Moscou et Moscou contre Pékin. Donc effectivement, maintenant, il faut trouver quelque chose pour que Pyongyang puisse avoir une alternative à Pékin. Donc c'est, je crois, ce qu'essaye de faire à tous azimuts Kim Jong-un, donc avec Poutine, avec le président Trump, bien entendu. Cette rencontre l'a extraordinairement servi, enfin les rencontres l'ont extraordinairement légitimé, à la fois vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de Pékin, vis-à-vis du Sud. Et puis, bon, pour le moment, le Japon est un peu hors-jeu, mais enfin, à un moment ou un autre, il faudra qu'il entre aussi dans l'équation. Donc c'est ça. Alors, rupture des relations avec Pékin, non, c'est changement d'alliance, la Chine ne l'autorisera pas, mais faire un peu peur et trouver une alternative. Je crois que pour la Russie, c'est très important pour Kim Jong-un.
Et d'ailleurs, Kim Jong-un a rencontré Vladimir Poutine, c'était à Vladivostok. Juliette Morillo.
Oh, je voudrais juste ajouter un tout petit point qui est psychologique, c'est-à-dire que les Coréens du Nord, fondamentalement, n'ont pas véritablement confiance en la Chine. C'est-à-dire qu'ils ne se laisseront jamais dicter quoi que ce soit par la Chine. Il ne faut pas oublier que pendant des années, la Corée, donc Nord et Sud, je parle de la Corée historique, était un satellite, une forme de colonie chinoise. Donc, ils sont très pragmatiques. En cela, ils sont comme les Chinois. Donc, ils vont avancer. Ils prennent ce qui est utile, mais fondamentalement, ils n'ont pas confiance.
À tous nos invités. D'abord, Théo Clément qui est à l'instant avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au King's College de Londres, mais également enseignant à l'Université de Pyongyang. Un grand merci également à Pascal Daès-Burgeon qui était avec nous en duplex de Bruxelles. Je remercie également les techniciens qui ont permis de faire le duplex jusqu'à nous. Et je rappellerai à nos auditeurs que vous êtes auteur notamment de La Dynastie Rouge, Corée du Nord 1945-2015, qui était paru chez Perrin, qui a même été traduit en coréen. Merci également à vous, Juliette Morillo, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur Kim Jong-un, dont on ne sait pas grand-chose, mais on en sait déjà un peu plus aujourd'hui grâce à vous. La Corée du Nord en 100 questions, c'était chez Talendier avec Dorian Malovic, et Le Monde selon Kim Jong-un, chez Robert Laffont, toujours avec Dorian Malovic. Merci infiniment à vous. C'est avec ce morceau qui est intitulé, qu'on pourrait traduire par « Du même pas », qui est une chanson qui a été faite évidemment pour rendre hommage au grand leader Kim Jong-un. Voilà, vous pouvez réécouter évidemment toute cette série de cette semaine avec nos grands hommes politiques en Asie, les quatre que nous avions choisis cette semaine sur le site de Culture Monde. Tout de suite, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous avez promis de nous présenter les deux idéologies concurrentes qui occuperaient la place des anciennes philosophies de l'histoire.
Oui, la collapsologie et le néo-progressivisme, comme les a présentés Serge Champeau sur le site Telos EU. Ou si vous voulez, la délectation morose face à la perspective d'une fin du monde présentée comme inéluctable d'un côté, et puis de l'autre, le constat que l'humanité vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 100 ans, ce qui est incontestable, mais dont est tirée la conséquence plus discutable, elle, qu'elle vivra l'humanité encore mieux demain. Or, personne ne sait comment nous vivrons dans 20 ou dans 50 ans. Il y a beaucoup plus d'imprévisibles et très peu d'inéluctables en histoire, comme le passé l'a prouvé. Certes, d'immenses progrès ont été réalisés. En 1800, nous n'étions qu'un milliard d'humains sur la planète, et dans aucun pays du monde, l'espérance de vie moyenne ne dépassait 40 ans. En 1950, l'espérance de vie atteignait 60 ans dans les riches pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, elle est de 84 ans au Japon, 82 ans en Italie, en France, en Suède, 78 ans aux États-Unis, 76 ans en Chine, 68 ans en Inde. Le nombre d'humains vivant sur la planète a été multiplié par 7 en 2 siècles, et si les famines n'ont pas complètement disparu, les rares cas observés ces dernières années ont dorénavant des causes politiques. Alors la tendance éco-optimiste, dite des « new conversationists » ou « éco-pragmatiques », illustrée par Emma Maris, s'est attachée à montrer que l'homme a toujours exercé une influence sur le milieu, qu'il a toujours transformé ce milieu. L'idée selon laquelle l'espèce humaine aurait pu vivre avant la modernité, avant l'industrie, avant le capitalisme, en harmonie avec l'environnement, est un mythe. La nature sauvage intacte, telle qu'elle est célébrée par les peintres de paysages ou les poètes romantiques, a presque toujours été façonnée par la main de l'homme. Et elle cite l'exemple de Hawaï. Généralement vantée pour sa végétation luxuriante, la plupart des magnifiques fleurs tropicales qu'on y admire ont été importées dans l'île. Laura Martin appartient à la même famille d'esprit. Elle a contesté dans Scientific American la notion d'empreinte écologique. En anglais, l'empreinte, ça se dit « environmental footprint ». Or, « footprint » désigne aussi une trace de pas. Elle a suggéré de remplacer « footprint » par « handprint », empreinte des mains, pour suggérer le caractère délibéré et ingénieux de l'intervention de l'homme sur la nature.
Mais Brice, l'attaque contre la notion d'empreinte écologique est bien plus radicale de la part des signataires du manifeste éco-moderniste.
Oui, c'est un modèle qui n'a aucune valeur scientifique selon Michael Schellenberg, qui était un des signataires en question. Le fondateur de l'association Environmental Progress, donc Schellenberg, déclarait récemment dans Le Point « Le jour du dépassement repose sur la notion d'empreinte écologique qui consiste en 6 mesures de perte de ressources, carbone, terres agricoles, terres urbanisées, pâturages, pêches et forêts. Or, selon leur méthodologie elle-même, 5 de ces ressources sont à l'équilibre ou excédentaires. Et la dernière ressource, celle du dioxyde de carbone, sauf qu'il ne s'agit pas d'une ressource, mais d'une pollution. Je cite toujours Schellenberg. Les environnementalistes ne veulent pas régler ces problèmes avec des moyens technologiques. Ils veulent effrayer les gens en leur faisant croire que le seul moyen de régler le problème du réchauffement climatique est de devenir pauvre, végétarien, ne pas prendre l'avion, ne pas utiliser l'électricité. Johanna Schurmack et Pierre Desrochers, ces Canadiens que j'ai déjà cités, écrivent de leur côté « La notion d'empreinte écologique a été délibérément construite pour contrer l'idée selon laquelle, grâce au progrès technologique, l'économie se dématérialise et que les technologies modernes permettent de produire de plus en plus avec de moins en moins d'entrants. C'est pourquoi ce modèle fait apparaître les pays pauvres où la santé des populations est mauvaise et l'écosystème plus durement sollicité comme plus vertueux que les pays fortement urbanisés et bénéficiant d'un haut niveau de développement. Or, selon Steven Pinker, que je vais citer là, quand les pays commencent à se développer, ils donnent d'abord la priorité à la croissance plutôt qu'à la préservation de l'environnement, mais à mesure qu'ils s'enrichissent, leurs préoccupations se tournent vers l'environnement. Ainsi, pour donner un exemple, le dernier indice de performance environnementale publié par l'université de Yale classe notre pays, la France, en 2e position mondiale, derrière la Suisse, juste devant le Danemark, Malte et la Chine. Et la Suède, pardon, justement. La Chine, elle est classée très mal, à la 120e position sur 180, et l'Inde à la 177e sur son 140 pays testés. Il est établi cet indice à partir de 16 critères, dont l'efficacité énergétique, la pollution intérieure des habitations, l'exploitation forestière, etc. Donc vous avez le choix, chers auditeurs, entre empreinte écologique versus indice de performance environnementale. Dans un cas, nous sommes très mauvais, dans l'autre, très bon. Difficile de se faire une idée juste.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve lundi, cher Brice.
Mais vendredi sur par écrit.
Absolument. Dans un court instant, c'est Olivia Gessler et la Grande Table.